France Culture. Le journal de la rédaction vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour à toutes et à tous. En pleine crise politique, les syndicats ont promis une journée noire de manifestations et de grèves. Pour peser sur les choix budgétaires du prochain gouvernement, nous serons au milieu d'un cortège à Marseille dès le début du journal. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, réclame davantage de soutien à l'audiovisuel public. Et en particulier, on verra face aux dérives de CNews et puis l'actualité à l'international. Encore dominée tout d'abord par le tumulte des horreurs quotidiennes perpétrées à Gaza et documentée par une enquête menée par plusieurs médias étrangers. Enfin, se rendra aux États-Unis où, face aux attaques répétées du président Donald Trump contre les médias, certains réussissent encore à faire front, quand d'autres préfèrent rendre les armes. À peine nommé à Matignon et toujours en quête d'un gouvernement durable, Sébastien Lecornu, lequel promet sur tous les tons et à qui veut bien l'entendre la rupture, va déjà devoir se familiariser avec une première forme de fracture, la désillusion qui partout sur fond d'exaspération ne cible pas d'ailleurs que le seul Premier ministre. Exutoire éprouvé de l'opinion depuis plusieurs mois, mais touche au-delà l'ensemble du personnel politique. Pour la seconde fois en seulement 8 jours, le vent de la colère sociale souffle à nouveau dans l'Hexagone. Ce matin, on comptait pas moins d'un tiers d'enseignants grévistes dans le primaire, 45% dans les collèges et les lycées, mais aussi de fortes perturbations dans les transports, et cette mobilisation aujourd'hui pourrait même largement déborder le cadre syndical. Il faut dire que les revendications sont nombreuses, des crispations sur la très controversée réforme des retraites, au refus d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage comme du gel des prestations sociales, sans oublier la demande de moyens supplémentaires pour les services publics et davantage de justice fiscale. Illustration à Marseille, donc ce matin, le cortège s'est ébranlé à 11h sur le Vieux-Port avec quelques 13 000 personnes selon la police, et un point semble cristalliser donc toutes les colères, le budget. C'est un reportage signé Mathilde Vincenu.
Couper dans le budget, c'est couper dans nos vies, a écrit un manifestant sur son t-shirt. Les économies, c'est plus possible, scande Jemila, infirmière dans le seul hôpital psychiatrique des quartiers nord de Marseille et membre du syndicat Force Ouvrière.
On a des gouvernements successifs qui nous saignent depuis des années, mais alors là, c'est le comble. Nous, l'hôpital, on a des budgets qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent. En 2 ans, l'hôpital a fermé 2 services, l'unité d'hospitalisation, donc au moment où on a le plus besoin de soins psychiatriques.
La politique d'austérité a des conséquences concrètes, dénonce Jean Cugier au milieu des fumigènes. Il est professeur d'EPS dans un lycée de Marseille.
Par exemple, nous, pour nos élèves, le sport scolaire, vous savez, le mercredi après-midi où on paye avec une petite licence, petite cotisation au sein de son établissement, ça disparaît.
Le ras-le-bol est partagé par tous les métiers, constate Vincent Vitrac, représentant CFDT pour la métallurgie.
Là-bas, vous avez un représentant des commerces, tout à l'heure j'ai croisé les banques, il y a tout le monde. Je me dis qu'on subit tous les mêmes pressions au travail. Globalement, il y a un gros problème de pouvoir d'achat, ça ne peut plus durer. Ouais. Mais on a des salariés, même dans des grands groupes, qui à la fin du mois, ils ne mangent pas le midi. Et ça, c'est plus acceptable. Des gens qui travaillent, c'est pas normal qu'ils soient dans la précarité.
Il faut arrêter de demander des efforts aux travailleurs, disent les représentants syndicaux dans le cortège. Taxer les riches, peut-on lire sur de nombreuses pancartes.
Le reportage à Marseille signé Mathilde Vincenu. Alors au total, 250 cortèges sont prévus dans toute la France. Des rassemblements massifs auxquels répondra un dispositif sécuritaire non moins spectaculaire. 80 000 policiers et gendarmes déployés, accompagnés de véhicules blindés et de canons à eau. Tout cela sur ordre donc du ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, dont on percevait tout à l'heure une forme de satisfecit lors d'un premier point presse adressé le constat d'une matinée sans incident majeur. Écoute.
Un certain nombre d'actions de blocage ont été constatées dès ce matin. Je pense que le prépositionnement de nos forces de sécurité intérieure a pu dissuader et sans doute déstabiliser celles et ceux qui voulaient faire des blocages pour le moment. Des tentatives ont été observées. Il y a eu jusqu'à 10 heures dans toute la France 230 actions sur la voie publique, 95 tentatives de blocage de sites et 10 000 personnes qui étaient engagées dans ces actions. Pour le moment, il n'y a eu qu'un seul sabotage. Une tentative, c'était en Martinique, pour ce qui concerne donc un réseau d'eau potable. Sur l'ensemble de ces actions, ce qui ressort en réalité de l'ensemble des interlocuteurs, c'est qu'elles ont été moins intenses que prévu pour cette première partie de la journée. Sans doute, encore une fois, déstabilisé par la présence massive des forces de l'ordre. Les tentatives de blocage se sont exercées sur des dépôts de bus, des taux ce matin, sur des axes de circulation, des bretelles, sur un certain nombre de lieux, des lycées, et à chaque fois, les forces avaient comme consigne, évidemment, de procéder à des déblocages.
Et à midi, on comptait 84 interpellations sur tout le territoire, dont 33 gardes à vue. Enfin, précisons encore que le ministère de l'Intérieur prévoit ce jeudi entre 600 000 et 900 000 manifestants dans tout le pays. Et sur les réseaux sociaux, de nouveaux mots d'ordre appellent déjà à poursuivre cette mobilisation dimanche prochain avec des balais comme symbole de la colère. À quelques jours d'un rapport de la Cour des comptes sur sa gestion de France Télévisions, Delphine Ernotte en appelle dans un entretien au journal Le Monde a un soutien plus affirmé envers l'audiovisuel public, manière peut-être de regretter les charges virulentes adressées au printemps dernier par la ministre de la Culture qu'elle a pourtant toujours soutenue, Rachida Dati, aujourd'hui démissionnaire. La présidente de l'entreprise fustige par ailleurs la galaxie médiatique du milliardaire Vincent Bolloré et réclame à l'autorité de régulation, l'ARCOM, d'admettre que CNews est une chaîne d'extrême droite. Mais plus que tout, Fiona Mogadam, Delphine Ernotte réclame donc à présent le soutien du monde politique pour préserver l'indépendance de l'audiovisuel public.
La présidente de France Télévisions estime avoir besoin de toutes les bonnes volontés républicaines pour s'élever contre cette violence verbale de nature presque politique. Mais ce ne sont pas que des prises de parole qu'attend Delphine Ernotte. Elle rappelle la nécessité d'un financement pérenne, financement en baisse depuis 10 ans. Nous avons absorbé 25% d'inflation, déclare-t-elle. Alors qu'en juillet dernier, elle a annoncé lors de la conférence de presse de rentrée du groupe un budget en déficit de 50 millions d'euros pour cette année, ce qui a notamment justifié la fin de l'émission en semaine de Questions pour un champion. Alors que l'État prévoit une coupe de 70 millions d'euros de budget pour France Télévisions et Radio France, la patronne de la télévision publique prévient, je cite, « Cela aura d'importantes répercussions sur notre capacité à investir dans les programmes de flux, la fiction, le documentaire, l'animation. » Elle rappelle aussi l'importance de conserver des médias de service public en cas de guerre, soulignant qu'en Ukraine, les crédits de l'audiovisuel public n'ont pas été coupés. S'il y avait une guerre en Europe demain, qui défendrait la position française, s'interroge Delphine Ernotte. Les chaînes d'opinion pro-russe posent-elles encore comme question? Contrairement à ce qu'elle a toujours prôné jusqu'à présent, la présidente de France Télévisions déclare désormais qu'elle n'est plus favorable au rapprochement de son groupe avec Radio France. En quelques mois, dit-elle, le choix a été fait de baisses budgétaires aveugles et successives. Il est difficile d'envisager une réforme de l'audiovisuel public sans douter de la réelle et sincère volonté politique de le renforcer.
Les émissions de gaz à effet de serre des 50 sites industriels les plus polluants en France n'ont baissé que de 1,4% en 2024. C'est ce qui ressort d'un rapport des associations Réseau Action Climat et France Nature Environnement publié aujourd'hui. Une diminution d'autant plus insuffisante que cette baisse s'expliquerait principalement par la chute de la production dans plusieurs secteurs en crise et non grâce à de réelles transformations structurelles. Assez largement divisés sur leur trajectoire climatique, justement, les pays européens vont tenter malgré tout de se mettre d'accord à minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil à l'automne prochain, histoire de ne pas arriver les mains vides. Faute de mieux, les ministres de l'Environnement réunis à Bruxelles aujourd'hui devraient discuter d'une simple déclaration d'intention sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE à l'horizon 2035. Encore faut-il que les 27 donnent leur feu vert. C'était en 2005. Israël procédait alors à l'évacuation des dernières colonies juives de Gaza. Et 20 ans plus tard, force est de constater que l'espoir naïf qu'un avenir nouveau était en train de s'ouvrir s'est définitivement éteint. La revanche est même totale pour le gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahu et sa coalition ultranationaliste bien décidée à s'y réinstaller. Hier, misant sur une doctrine d'anéantissement, l'armée a lancé son offensive terrestre définitive sur la ville de Gaza, de laquelle des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tentent toujours de fuir, du moins lorsqu'ils en ont encore la force, le tout sous un ciel infernal qui tonne de bombardements incessants. Alors en optant pour la logique du pire ou à une inhumanité, répond une autre inhumanité, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a-t-il mesurer combien cet engrenage risquait de mener à davantage encore de chaos. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce qu'il pourra rester à terme de Gaza, sinon des ruines, mais aussi un terreau de haine et potentiellement le berceau d'une vengeance sans fin. Mais peut-être le gouvernement de Netanyahou s'en moque-t-il, tout comme il ne se soucie pas davantage du droit international et de la protection des civils. À ce titre d'ailleurs, une enquête accablante menée durant 5 mois par des journalistes d'investigation de plusieurs médias, dont le quotidien britannique The Guardian, mais aussi le magazine allemand Der Spiegel, vient jeter une lumière crue sur les exactions perpétrées à Gaza. Eric Begala, bonjour.
Bonjour Thomas.
On parle ici d'un groupe de francs-tireurs de l'armée israélienne baptisé Fantôme et qui aurait abattu, Eric, des dizaines et des dizaines de civils non armés.
Alors en tout, le groupe Fantôme aurait abattu 105 personnes pendant son déploiement à Gaza à partir de novembre 2023, un mois après le déclenchement des opérations militaires sur l'enclave. C'est ce que confirme Daniel Raab, l'un de ses snipers, interviewé par ce qu'il croyait être un média israélien, en vérité un membre de l'équipe d'investigation qui a réuni des journalistes du Spiegel, du Guardian, de la chaîne allemande ZDF, mais aussi d'un consortium d'enquêteurs palestiniens. Ce groupe Fantôme israélien n'est pas une unité en tant que telle de l'armée israélienne. Fantôme, c'était le nom qu'ils se donnaient entre eux. Mais les snipers qui la composaient étaient bien intégrés dans la chaîne de commandement militaire israélienne. À ce titre, ce ne sont pas vraiment des francs-tireurs. La plupart sont d'ailleurs des binationaux. Daniel Raab, par exemple, est un israélo-américain originaire de l'Illinois. Son acolyte Daniel Graetz, également nommément identifié par l'enquête, possède également la nationalité allemande. Il a passé son enfance à Munich. Les enquêteurs ont retrouvé les lieux précis, les immeubles où les snipers israéliens étaient embusqués. On récupérait plusieurs des vidéos souvent filmées par eux-mêmes et montrant les tirs de précision sur des civils désarmés, notamment sur ceux qui venaient récupérer les corps de leurs frères, de leurs pères ou cousins qui venaient d'être abattus par les snipers du groupe Fantôme. 4 membres de la famille Dogmoche, par exemple, ont ainsi été successivement abattus et 2 autres blessés en une seule journée en novembre 2023. Abattre des civils, notamment ceux qui viennent récupérer les corps des personnes déjà tombées, est expressément interdit par les règles d'engagement de l'armée israélienne elle-même. C'est aussi une claire violation de la loi humanitaire internationale et à ce titre, les hommes qui s'en sont rendus responsables peuvent être poursuivis pour crimes de guerre.
Merci Eric Biegala. 160 invités réunis autour de la famille royale au château de Windsor. Hier soir, la couronne britannique avait organisé un banquet d'État absolument somptueux en l'honneur de Donald Trump, soigneusement à l'abri des milliers de personnes qui manifestaient contre sa présence. Mais depuis ce matin, fini le faste royal, place désormais à la politique. Le président américain s'entretient en ce moment même avec le premier ministre Keir Starmer, au menu cette fois-ci droit de douane et relations commerciales. Et sur ces deux dossiers sensibles, rien ne dit que l'accueil déployé la veille sous les ors de la monarchie aura réussi à amadouer un tant soit peu le président américain. Elle relève d'ordinaire d'un monde, disons, plutôt académique et feutré. Elle, c'est la stratégie monétaire américaine. Or, depuis l'investiture de Donald Trump, celle-ci a fini par glisser vers la saga politique en même temps que la chronique judiciaire. Voilà plusieurs mois que le chef de la Maison-Blanche reprochait à la Réserve fédérale de ne pas baisser ses taux directeurs. Et hier, après qu'un nouveau gouverneur de l'institution a été tout juste promu par Donald Trump lui-même, la Fed a fini par assouplir sa stratégie monétaire d'un quart de point, alors dans une proportion jugée certes encore trop timorée par le chef de l'État, mais qui témoigne bel et bien des pressions intenses exercées depuis des mois par l'administration trumpiste. Donald Trump, toujours lui, a fait depuis longtemps, on le sait, des attaques contre les médias, l'un des motifs récurrents de sa rhétorique. Et si la presse écrite résiste tant bien que mal, malgré les plaintes pour diffamation déposées par le président contre le New York Times et le Wall Street Journal, 2 institutions de la presse outre-Atlantique, certains, en revanche, finissent par céder. C'est le cas de la chaîne de télévision ABC, qui a suspendu hier son animateur superstar Jimmy Kimmel, après des propos jugés offensants suite à la mort de l'influenceur raciste Charlie Kirk. Le chef de la Maison Blanche a aussitôt salué une excellente nouvelle pour l'Amérique quand la gauche dénonce au contraire une grave atteinte à la liberté d'expression. C'est une correspondance signée Franck Madvan.
C'est lundi que Jimmy Kimmel prononce la phrase controversée. Le présentateur raconte que la clique des MAGA, Make America Great Again, en référence au pro-Trump, a fait tout son possible pour présenter le meurtrier de Charlie Kirk comme quelqu'un qui n'est pas des leurs et pour marquer des points politiquement. Kimmel est ainsi soupçonné d'associer l'assassin de Kirk aux Trumpistes, une interprétation reprise ces derniers jours par la droite conservatrice sur les réseaux sociaux, jusqu'à cette interview hier dans un podcast de Brendan Carr, le patron du régulateur des médias. Nommé par Trump.
Franchement, quand on voit des choses pareilles, on peut régler ça en douceur ou brutalement. Une compagnie peut trouver un moyen de changer les attitudes. Elle peut prendre des mesures contre Kimmel. Ou alors, il y aura du travail pour notre commission.
Peu après, Nexstar, un diffuseur du Late Show de Jimmy Kimmel sur des antennes locales, annonce stopper l'émission. Puis ABC prend donc la même décision. Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat, réagit sur CNN.
Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec Kimmel, il a le droit à la liberté d'expression. Je suis scandalisé. C'est ce que font les dictateurs, c'est ce que ferait Xi Jinping ou Poutine. Ce n'est pas notre pays.
ABC a diffusé hier soir une émission de télé-réalité à la place de Jimmy Kimmel.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec partout du soleil, si ce n'est quelques nuages du Finistère au Cotentin. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Axel Dubois. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h.